Alors, je vais parler des spécificités du patrimoine scientifique des universités de deux points de vue. Donc, mon exposé sera en deux points. J'aborderai d'abord des spécificités qu'on pourrait appeler objectives, et pour ne pas dire plus simplement descriptives, pour aller vers une compréhension de spécificités qu'on pourrait dire plus ontologiques, c'est-à-dire qui relèvent du processus de patrimonialisation. Dans le premier point, les spécificités descriptives de ce patrimoine scientifique. Dans un premier temps, on peut dire, pour ce qui concerne la constitution de ce patrimoine, et je dirais son existence observable, eh bien, un certain nombre d'auteurs sont d'accord pour dire que ce patrimoine est caractérisé par une grande diversité, une grande hétérogénéité, une grande dispersion, alors dispersion spatiale, mais aussi dispersion dans le temps, et un déséquilibre qui peut être très important entre la place qu'occupe ce patrimoine et ce qu'un centre de recherche, une université, une grande école peut considérer comme les axes forts de sa recherche, aussi bien la recherche passée, du point de vue de l'histoire du centre de recherche, que la recherche présente. Donc la rationalité qui préexiste à la présence de collections tient plus à l'histoire d'un labo, d'une recherche, qu'à la volonté de réunir des ensembles complets et cohérents, sauf dans certains cas, puisqu'il y a des collections très cohérentes, notamment dans le cas des sciences naturelles, de la minéralogie, mais on s'aperçoit que souvent cette cohérence, cette complétude vient de nécessités pédagogiques. Donc ça, c'était du point de vue de la constitution de ces collections. Du point de vue de la réception, ces collections sont composées d'objets qui peuvent poser un certain nombre de problèmes par rapport à des objectifs culturels. Le premier problème, c'est la lisibilité des objets. Je ne sais pas si Coriandre a prévu tout à l'heure de faire des démonstrations, je ne sais pas si tu en auras le temps, mais c'est un fait qu'on peut être amené à voir des objets et même à les voir fonctionner et que ce ne soit absolument pas visible et qu'il faille donc un nombre de couches de médiation telles que finalement la seule solution c'est de laisser tomber l'objet, de construire un artefact. Deuxième problème par rapport à des objectifs culturels, il faut que l'objet soit porteur d'une histoire racontable ou d'un phénomène qui peut être explicité et surtout démontré, c'est-à-dire se dérouler dans un temps événementiel. Ça, ce sont des catégories que j'emprunte à Michel-Antoine. Enfin, un troisième point, ces objets doivent être capables d'engendrer ce que l'on appelle une émotion patrimoniale. Et l'émotion patrimoniale, c'est une émotion assez complexe, puisqu'elle réfère à l'expérience esthétique, elle réfère aussi à l'expérience de l'histoire, par exemple, l'histoire des grands noms qui ponctuent l'histoire des sciences, mais aussi à d'autres émotions qui sont liées à la présence des sciences et des techniques dans la vie de tous les jours. Donc, comme le dit très bien Michel-Antoine, un objet patrimonial ne fait pas nécessairement un objet muséal, un bon objet muséal, et en tout cas pas nécessairement, de manière plus large, au-delà de la question des musées, un objet culturel. Il y a également dans ces collections un problème qui est lié aux besoins sociaux que les musées ont pris en compte, d'objets phares, c'est-à-dire d'objets qui réunissent les différentes qualités dont je viens de parler et qui en même temps ont une fonction récapitulative et une fonction de marqueur historique. Donc ces objets phares aujourd'hui sont appropriés dans la muséologie, ou plutôt dans la muséographie, et on peut voir par exemple dans la refonte de la muséologie au musée Omnam, le rôle nouveau des objets phares. Donc, dans les spécificités du patrimoine des universités, eh bien, il y a le fait que les collections sont rarement constituées pour des motifs culturels. Et le fait que, dans le système français, il y ait une véritable carence en matière d'enseignement culturel dans les enseignements scientifiques, en sciences exactes. Une grande carence en matière d'enseignement de l'histoire des sciences. Une grande carence aussi de transversalité en enseignement et en recherche sur la culture scientifique fait qu'il y a une faiblesse structurelle de l'université en tant que système qui donc n'est pas porteur d'une culture, au fond, de son histoire et de sa production. C'est-à-dire, il y a un manque d'approche culturelle, au fond, de ce que produit l'université. J'ajoute, pour le terrain plus spécifiquement grenoblois, que nous connaissons bien, qu'il y a une faiblesse, hélas, qui semble structurelle, dans le domaine de la recherche sur les sciences et sur les pratiques scientifiques. Grenoble n'est pas un territoire de science studies, et je ne suis pas sûre qu'il faille en faire porter la faute exclusivement aux chercheurs en sciences humaines et sociales. Il y a une résistance du terrain grenoblois au développement d'études critiques sur les sciences, et j'en veux pour preuve le fait que le cluster 14, financé par la région Rhône-Alpes, était essentiellement piloté depuis Lyon, et que depuis que Lyon n'est plus un pôle, le pôle de recherche qu'il a pu être sur les sciences, dans le cadre de ce qui a succédé au cluster 14, c'est-à-dire l'arc 5, eh bien, Grenoble a essayé de jouer un rôle dans le cadre de l'arc 5, et on voit que ce pilotage est malheureusement moins fort et moins ambitieux que lorsqu'il il était mené depuis Lyon. Et en disant cela, je n'accuse personne, puisque je suis responsable adjointe de l'arc 5. Donc je ne fais que constater ce qui émane du terrain et notre difficulté à rassembler, à donner une cohérence à nos travaux. Alors avant d'aborder le second point, je dirais également qu'il y a un cas particulier qui est rarement abordé malgré les efforts de Catherine Cuenca, que je salue, qui est celui des sciences humaines et sociales, dont l'instrumentation évidemment paraît bien faible, bien minuscule, mais tout, aussi parce qu'elle est sous-estimée. C'est-à-dire que l'instrument des sciences humaines et sociales, c'est une instrumentation de pensée, c'est un instrumentarium un peu particulier, composé d'outils méthodologiques, de méthodes appliquées à l'humain, au social, au texte, à l'analyse du politique, etc. Et je pense que tout à l'heure, Coriandre, dans le cas particulier de Gypsalab, pourra montrer comment, j'allais dire, entre le dur et le moins dur, le cas de la phonétique expérimentale, on peut aborder cette question, à mon avis, tout à fait passionnante et sous-estimée de l'instrumentation des sciences humaines. Alors, du côté de la vie des collections et du rôle des collections dans le rapport société, on constate que dans le système universitaire, les collections sont essentiellement issues de systèmes de recherche qui, à un moment donné, peuvent être jugés dépassés et qu'il faut des circonstances sociales ou politiques pour que ces collections à visée scientifique retrouvent une actualité et une nouvelle vie. Et c'est par exemple le cas de ce qu'on appelle les collections vivantes, à propos des collections de sens naturel, lorsqu'elles sont réinvesties, par exemple, sous l'angle de la biodiversité ou sous l'angle de la recherche, s'attachant à décrire, identifier de nouvelles espèces par d'autres techniques que celles de la description physique et anatomique. Et pour aller vers le deuxième point, plus ontologique, je crois qu'il y a une chose qui est très importante pour comprendre la spécificité des collections universitaires, c'est le caractère transitoire des instruments et des objets supports de la recherche, transitoire, c'est-à-dire conçus sans valeur autre que la valeur de servir un projet scientifique à un moment donné. Et c'est toute la différence qu'il y a entre la science que certains, donc je fais allusion à Dominique Vinc, à Jean-Paul Fourmentreau, qualifient de bien intermédiaire, par rapport à l'art et à la culture que les mêmes auteurs qualifient de bien finaux, c'est-à-dire qui, à un moment donné, trouvent une existence stable dans la société. Alors j'en viens, s'il me reste encore 3 minutes, au deuxième point, qui est donc l'approche des spécificités de ce patrimoine à travers la question du processus de patrimonialisation. Faute de temps oralement, je ne m'appuierai que sur les travaux de Jean Davalon, s'inspirant des anthropologues Jean Pouillon et Gérard Lanclus, et qui se sont attachés à montrer comment il est nécessaire d'aller à l'encontre d'une critique du patrimoine qui serait fondée sur l'idée que le patrimoine alourdit, fige la société, nous met forcément dans une situation de regard en arrière nostalgique, et donc au fond, plus il y aurait de patrimoine, plus nous serions encombrés pour aller vers l'innovation et la modernité. Je n'ai pas le temps ici de vous redire comment cette critique est formulée par notamment Lenclus, Gérard Lenclus, mais comme l'a dit tout à l'heure Guy, eh bien, vous lirez nos contributions. Je dirais simplement que dans une vision assez récapitulative et que j'ai trouvé intéressante, Jean Davalon nous dit, attention, la question du patrimoine est complexe et on peut au moins déterminer deux formes de transmission. Formes de transmission qui peuvent servir à l'étude du patrimoine. La première forme de transmission, c'est la transmission par héritage. Et là, il y a une ambiguïté, parce qu'en anglais, patrimoine se dit heritage, sauf que heritage ne signifie pas héritage. Donc, la transmission, première forme de transmission par héritage, deuxième forme de transmission par patrimonialisation. Alors, je vais détailler ces deux formes de transmission, parce que je trouve que le détail est assez parlant. Dans la transmission par héritage, on reçoit quelque chose, qui est déjà constitué et pensé comme un héritage. Ça peut être le cas de l'art, mais ça peut être, de manière beaucoup plus prosaïque et quotidienne, le cas des héritages familiaux. C'est un processus descendant, dans le sens où il vient du passé, il se constitue dans le passé et il vise le présent. Et c'est un processus dans lequel le rôle déterminant est celui du donateur, parce qu'il est soumis à ce qu'on peut appeler une forme de liberté d'usage. Si vous héritez d'un grand et large, riche patrimoine familial, à part la pression morale de vos ancêtres, de vos parents, bien vous en avez une liberté d'usage, vous pouvez le dilapider en une seule génération, et bien qu'il y ait ce poids moral du donateur. L'autre forme de transmission, par patrimonialisation, dans cette forme-là, on ne reçoit pas un patrimoine déjà constitué comme tel, on choisit son patrimoine. C'est-à-dire que c'est un processus qui part du présent, par rapport à des besoins du présent, et on va chercher dans le passé ce qui peut permettre de dire une société, de penser son passé et son avenir, son présent, pour pouvoir se projeter dans son avenir. C'est exactement ce pourquoi ont été conçus les musées de société. Et donc, dans cette deuxième approche, le rôle déterminant n'est pas celui du donateur, mais celui du receveur, qui est en même temps un inventeur et un créateur. Et contrairement à la première forme de transmission, il y a là non pas une liberté d'usage, mais une forte contrainte d'usage, ce qui a été très bien rappelé précédemment, puisque on constitue un patrimoine pour le transmettre aux générations futures, et donc il y a un arsenal juridique qui peut être mis en place pour le conserver. Jean Davalon nous rappelle aussi qu'il y a un double mouvement dans le processus de patrimonialisation. Un mouvement qui part du temps de la découverte de l'objet, sachant que la découverte n'est pas forcément une découverte physique, c'est peut-être une découverte mentale, c'est-à-dire tout simplement un nouveau regard porté sur un objet qui traîne dans un coin ou qui vient tout simplement de partir à la benne. Et donc on part de ce moment de la découverte de l'objet, donc on est dans le présent, pour remonter vers le monde d'origine. C'est ce que Davalon appelle une logique scientifique. Pourquoi cette logique est scientifique ? Parce que si on remonte vers le passé, on le fait, un, pour produire de l'authenticité, c'est une valeur essentielle de l'objet patrimonial, et également pour s'assurer qu'il y a un lien indiciel possible entre le monde d'aujourd'hui et le monde d'origine. Lorsque je dis indiciel, excusez-moi pour ce mot de jargon des sciences humaines, ça signifie qu'il y a un lien physique entre ces deux mondes. C'est pour cela que nous avons besoin d'objets authentiques et pas seulement d'artefacts. Et l'autre mouvement dans le processus de patrimonialisation consiste à repartir de ce monde d'origine vers lequel on est allé pour retourner vers le présent et, dans le présent, donner un statut nouveau à l'objet. C'est ce qu'on appelle, par rapport à la logique scientifique dont je viens de parler, la logique symbolique. Si bien que, à la suite de Gérard Lanclus, Davalon a repris l'idée que le patrimoine s'inscrit non pas dans une filiation du passé vers le présent, mais dans une filiation inversée du présent vers le passé, c'est-à-dire que finalement c'est l'héritier qui se construit en tant qu'héritier, et que donc là il y a un mouvement qui n'est pas du tout un mouvement passéiste, nostalgique, anti-moderne hein, finalement, mais qui est le mouvement d'une reconstruction créative. Nous nous pensons comme les héritiers d'un passé et nous élisons des objets comme prétexte, à condition que ces objets aient les qualités d'authenticité, la capacité d'être indiciels, comme je viens de le dire, nous les élisions comme prétexte pour nos rituels contemporains. Donc vous l'avez bien compris, hein, je me situe dans une perspective anthropologique. Alors je voudrais peut-être terminer très brièvement sur, dans cette deuxième perspective, plus anthropologique, comment tout cela peut-il s'appliquer au patrimoine des universités? Eh bien, on s'aperçoit que, dans ce que j'ai dit précédemment, le fait que les objets de la science sont conçus comme transitoires et s'attachent aux productions de la science, c'est-à-dire à des biens intermédiaires, ils sont entièrement définis par leur fonction et ne sont pas pensés dans une visée culturelle. Et donc, le fait que ces objets soient pas pour tous, mais pour un grand nombre, rapidement obsolescent, hein, et difficile à réinvestir, à bricoler, à transformer, surtout dans une économie de la recherche qui pousse à l'innovation et qui pousse à au changement fréquent d'instruments, hein, nous sommes au fond dans un passé qui est relativement indistinct, c'est-à-dire il n'y a pas un passé impérieux hein, qui transmet à ses héritiers un devoir de mémoire, un devoir d'histoire et surtout un devoir de patrimoine. Il y a aussi une caractéristique dans l'université qui est sa fonction culturelle, hein, la mission culturelle des universités inscrite dans la loi, mais cette mission culturelle se traduit par des fonctions. Et dans ces fonctions, on privilégie le plus souvent soit la démarche par projet, c'est-à-dire une forme d'activisme culturel, hein, ça c'est pour la méthode, on peut parler aussi de vitalisme culturel, ça c'est pour l'idéologie. Et ce qui fait que la fonction culturelle de l'université s'est beaucoup développée en dehors de la culture scientifique et de la question du patrimoine scientifique, et beaucoup tournée vers les arts, et notamment vers tous les arts performatifs. Et deuxième point pour la fonction culturelle de l'université, hein, un attachement prioritaire à la vulgarisation de la science, mais la vulgarisation s'attache surtout à l'état final de la recherche scientifique, c'est-à-dire le savoir constitué et la connaissance. Et ce que Guy Saez nous disait tout à l'heure sur le fait qu'à un moment donné de l'histoire des musées, on va s'attacher plutôt, et des centres de culture scientifique, on va s'attacher plutôt dans un deuxième temps au processus de recherche et dans un troisième temps à la question de la participation, c'est vrai que dans les universités, nous sommes très loin hein, derrière ces évolutions. Or, le patrimoine a besoin pour exister, de ne pas seulement exister à l'état d'objet, mais d'avoir une capacité à s'incarner dans des formes culturelles. Quand je dis formes culturelles, je pense film, vidéo, démonstration, festival, exposition, et il me semble que cette question des formes culturelles est plus vaste, plus essentielle et sans doute moins circonstanciée dans le temps que la question art et science, qui pour moi est relativement limitée. À mon sens, il faut remonter à un niveau peut-être plus large, hein, qui est celui de la culture, qui permet d'ailleurs hein, de penser le lien entre art et science, qui s'est beaucoup développé ces dernières années.
Marie-Christine,
et donc,
voilà.
Eh bien, j'en ai fini.
Progression, voilà, conclusion peut-être.
En une minute, hein, voilà. Je vais choisir juste un des points de la conclusion. C'est que si je me suis intéressée à la spécificité du patrimoine des universités, c'est aussi pour penser la spécificité du rôle des universités dans la culture scientifique. chaque fois que nous nous acheminons par une sorte de facilité mentale que l'on peut très bien comprendre, hein, vers l'idée que ça passerait forcément par un musée, hein, ou par une exposition, des expositions temporaires. Au fond, nous reproduisons un monde culturel qui, quelque part, est déjà un monde plus ou moins ancien. Il me semble que l'université doit s'appuyer sur la spécificité de ce patrimoine à la fois fragile, fuyant, et en même temps un patrimoine qui est celui de la connaissance, des savoirs, donc un patrimoine tout à fait essentiel, peut-être pour aller, et là je reprends encore une fois une proposition que j'ai trouvée très intéressante chez Michel Antoine, c'est-à-dire l'idée que ce patrimoine s'exprimerait ou serait réutilisé, mis en valeur, dans le cadre de lieux réflexifs d'expérimentation. Expérimentation muséologique, expérimentation pédagogique, expérimentation en médiation. Et que donc ce qui serait important, ce ne serait pas l'objet lui-même, mais la réflexion et l'expérimentation culturelle autour de ces objets. Alors j'en veux pour preuve deux projets investissement d'avenir dans lesquels nous sommes partie prenante, un certain nombre de chercheurs et de centres de recherche à Grenoble. Premièrement, le projet Inmediates, hein, porté par plusieurs presse, je dis encore presse parce qu'à l'époque c'était des presses, et CCSTI en lien avec Universcience, qui est une tentative pour renouveler la médiation scientifique par le biais de l'économie numérique, hein, pour le dire très très vite. Et le deuxième investissement d'avenir qui s'appelle la Métis et qui est là aussi porté avec des CCSTI, plusieurs CCSTI en France, et qui a pour but de renouveler et d'innover en matière de médiation scientifique. Et il me semble que c'est par ce biais-là que l'université non seulement fera face à un patrimoine qui a ses spécificités en développant des approches culturelles spécifiques.